Nous allons étudier, enfin nous allons méditer sur le petit mot de la fin. Ça, en général, ça fait fin de culte, hein? Voilà, petit mot d'envoi, hein? Il y a un petit mot tout petit qui a toute son importance dans le Notre Père. Et c'est vrai que nous n'avons pas encore totalement fini avec le Notre Père. Il nous reste encore un détail pour aller jusqu'au bout de cette série. Et ce petit mot pour finir, il est tout à la fin. Alors Jésus, on lui pose la question, enseigne-nous à prier, dirent les apôtres. Eh bien Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. Une prière modèle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous, dit Jésus, aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Et Jésus finit en disant, Amen. Amen. Ah, ce petit mot, hein? Nous avons eu, avec Annie, dans notre vie chrétienne, l'occasion de visiter beaucoup d'assemblées. Et c'est assez intéressant de voir comment les gens prononcent le Amen. Il y a des assemblées où le Amen est silencieux et timide, hein, comme l'élève au fond de la classe, tellement discret que même absent, on ne le remarque pas. Il y a le Amen distrait. Vous savez, celui qui est à côté, qui la prière est finie, je ne sais pas, 1 minute ou 2 minutes après, Amen! Voilà, bon. Ça arrive. Il y a le Amen caféiné. Vous êtes là, Amen! Ouf. Hein? Oui, le frère est en forme. Gloire à Dieu. C'est celui qui tient réveillé. Et puis, il y a le Amen, peut-être vous l'avez vu dans certaines assemblées, ponctué de beaucoup d'alléluia. Le Amen, arme automatique. Amen, 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 Amen. Oh là là. Hein, celui qui peut vous déconcentrer, parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude. Il y a des Amen. Et c'est beau les Amen. C'est beau parce que c'est pas nous qui l'avons inventé. C'est Dieu. Et nous allons aujourd'hui voir la grandeur d'un tout petit mot. Et puis nous verrons que on peut parfois ne pas dire Amen. Alors la grandeur de ce petit mot que nous trouvons dans la Bible. Alors ce mot a une origine hébraïque. Il se traduit par c'est vrai. Quand on dit Amen, ça veut dire c'est vrai. C'est fidèle. C'est certain. Jésus a utilisé ce Amen. Deux fois à l'affilée, Amen, Amen, je vous le dis, que nous traduisons par en vérité. C'est une bonne traduction. C'est l'évangile de Jean qui utilise de manière exclusive cette formule. Amen, Amen, je vous le dis. Lorsque Jésus avait besoin d'appuyer une déclaration face à l'opposition, à ses adversaires, et pour attester une vérité, eh bien Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Et dans le texte original, c'est Amen. En vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et qui croit, celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Et puis, un autre Amen, Amen. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Lorsque Jésus dit Amen, ou en vérité, il faut ouvrir nos deux grandes oreilles et l'écouter. Par cet emploi, Jean, l'évangéliste, eh bien, cherche à souligner que la parole de Jésus est la vérité, dans la forme comme dans le fond. Et puis il y a l'interjection Amen, qui a un sens particulier, celui de ainsi soit-il. Et l'on entend quand une prière finit, Eh bien, il y a un acquiescement. Ainsi soit-il. Ça veut dire oui, un oui ferme, comme un poinçon de garantie. Cette formule d'adhésion, d'approbation est souvent exprimée par une assemblée lorsqu'elle entend quelque chose, comme pour sceller le contenu d'une prière. Et on le voit dans l'Ancien Testament, quand Israël est assemblé et que Moïse parle ou que un prophète ou un roi ou un sacrificateur, dans le dictionnaire encyclopédique, il est dit que presque tous les écrits du Nouveau Testament qui reprennent ce mot de l'Ancien Testament, se termine par ce mot, qui semble être la récapitulation et la confirmation des faits et des renseignements qui y sont renfermés. Il sert en quelque sorte de valider, et on dit « Amen ». Et puis il y a le « Amen » de référence, qui fait référence à Jésus lui-même. Jésus est le Amen, il est la vérité. Alors si j'étais dans une église pentecôtiste, j'aurais entendu « Amen » de la part de l'Assemblée. Apocalypse 3, verset 14, l'ange écrit à l'église de l'Odyssée. Qu'est-ce qu'il dit ? « Voici ce que déclare l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, celui qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. » Jésus est donc l'Amen, le fidèle, le véritable, digne de confiance. D'ailleurs, ce mot « digne de confiance » vient d'une racine, d'une forme verbale de « Amen ». C'est oui, c'est la même chose. Dans Ésaïe 65, par exemple, « Quiconque se bénira dans le pays, se bénira par le Dieu de l'Amen ». Celui qui est un Dieu digne de confiance. Et puis, dans une autre version, en français courant, il est écrit dans le pays, donc, ceux qui voudront se souhaiter à d'autres d'être bénis le feront en prononçant le nom de Dieu sur qui l'on peut compter. Quand quelque chose est fiable, c'est quelque chose sur qui l'on peut compter. Alors, un dernier emploi, donc, va reprendre cette notion, le Amen. Eh bien, sous sa forme verbale, se traduit par avoir foi, avoir confiance. Il apparaît pour la première fois à Abraham, concernant Abraham. Quand Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Et Abraham fit confiance à Dieu, et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Mes amis, aujourd'hui, une parole qui a été prononcée il y a 4000 ans à un vieillard, aujourd'hui cette parole s'accomplit pour plus de 2 milliards de personnes se revendiquant descendants d'Abraham. Amen. Quel Dieu! Et les Israélites, lorsqu'ils virent la puissance de Dieu et Dieu intervenir contre l'Égypte, eh bien, il est écrit, c'est pourquoi ils reconnurent son autorité et ils mirent leur confiance en lui et en Moïse, son serviteur. Ainsi, le but de Dieu dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui, est de gagner cette confiance en ton cœur parce qu'il le mérite. Réalises-tu, quand tu dis Amen, que tu proclames que tu as un Père céleste que tu peux invoquer avec tes frères et sœurs, un Dieu qui t'aime d'un amour incommensurable. Un Dieu en qui tu peux mettre ta confiance, un Dieu de vérité, un Dieu qui ne ment pas. Et c'est au nom de la vérité, au nom de ce Dieu qui ne ment pas, que nous ne pouvons pas dire Amen à tout. Parce que, à mon sens, Le plus grand enjeu aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2024, eh bien, le plus grand enjeu est bien celui du Amen, celui de la vérité. À qui, à quoi allons-nous dire Amen? Jamais nous n'avons vécu une telle confusion. Nous sommes dans une époque appelée post-vérité. Alors la post-vérité, c'est pas la poste qui a des horaires d'ouverture, hein. La post-vérité, le Larousse le dit, c'est le concept selon lequel nous serions rentrés dans une période où l'opinion personnelle, l'émotion, la croyance l'emportent sur les faits et la réalité. Oui. On baigne dans une période où le réel, la réalité des choses, finissent par être considérées comme moins vraies que ce que les opinions. C'est plus « je pense donc je suis », mais ce que je pense est la réalité, n'est-ce pas? Alors j'ai essayé de faire ça, ça n'a pas marché. J'ai appelé l'Élysée, je leur ai dit « je pense que je suis président de la République ». Et que je dois aller à la cérémonie, n'est-ce pas? Bon, ils m'ont mis en relation avec, une institution spécialisée pour ce genre de gestion, n'est-ce pas? Eh oui. La vérité, dit Blanche Streb, qui est éditorialiste et qui dénonce la post-vérité, eh bien, la vérité des mots, c'est dans le texte. On s'en fout. Seul compte leur efficacité. Et particulièrement dans les projets de loi éthique. Le 28 mai dernier, une députée déclara à la tribune de l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, que le choix, par exemple, de légaliser l'aide à mourir demeure résolument une façon de défendre la vie. Blanche Streb poursuit. Ceux qui aujourd'hui ont le courage de dire publiquement qu'être une femme est tout simplement une réalité biologique et qu'un homme, même s'il affirme se ressentir comme tel, n'est pas une femme, se font conspuer, menacer, insulter, jusqu'à même être menacés de mort. Elle ajoute que l'idéologie trans aggrave ce climat ambiant qui voudrait contraindre tout le monde à mentir et surtout à se mentir. Cela fait évidemment penser à cette citation célèbre d'Albert Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, un livre est sorti pour dénoncer le trans, la transmania, hein, ça s'appelle ainsi, écrit par deux féministes très engagées. On aurait pu dire des chrétiens, non. Tout est confusion et confusion. Au nom de la vérité, nous ne pouvons pas dire Amen à tout. La vérité de Dieu finira-t-elle par s'effacer devant le torrent du relativisme qui prétend que ce qui compte, c'est ce que nous ressentons? Peu importe si cela est vrai ou non. Si vous avez Netflix chez vous, je ne sais pas s'il est encore visionnable. Il y a un documentaire très intéressant sur la secte des Raéliens, instructif. Et j'ai été surpris par la dernière question que le journaliste pose aux adeptes de la secte, en leur disant « Et si tout cela était faux, qu'en penseriez-vous ?» Et la réponse a été déclarée entre autres par des responsables « Eh bien, j'aurais tout de même vécu de belles années. » Mais c'est faux. Non seulement c'est faux, mais on prêche le faux. On induit les gens à l'erreur, jusqu'à impacter leur vie éternelle. Un jour, quelqu'un a posé la question à l'apôtre Paul. Paul, l'apôtre, un joli prénom, n'est-ce pas, Camille et Léopold, hein? Voilà, Paul, dis-nous, et si cela était faux? Paul a dit, mais vous vous rendez compte ce que vous dites? Notre foi serait vaine, Christ ne serait jamais ressuscité. Nous serions les plus malheureux des hommes. Il n'a pas dit, on a passé du bon temps, on a voyagé, on a rencontré des gens. Si cela est faux, eh bien mes frères et sœurs, vous n'êtes même pas mes frères et sœurs. Nous perdons notre temps ici. Et c'est pourquoi Paul, avant d'affirmer des choses en tant qu'apôtre, eh bien il a dû considérer la véracité de ce qu'il a vu et vécu sur le chemin de Damas, mais surtout de ce qu'il a entendu, mais surtout de ce que Dieu lui-même, le Dieu de l'Amen, lui a dit. C'est pourquoi il a changé de camp. Si cela était faux, mais Paul n'aurait jamais changé de camp. Il vaut mieux être persécuteur que persécuté. C'était son boulot. Il a tout perdu. Cela est vrai. Il le dit, je le dis la vérité dans Romains, je dis la vérité en Christ. Je ne mens pas, ma conscience me rend en témoignage par l'Esprit Saint. Et dans 1 Timothée, il écrit à Timothée, en effet, il y a un seul Dieu, et même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Il a offert sa vie en rançon pour tous. Tel est le témoignage qui a été rendu au moment voulu. Et c'est pour publier ce témoignage, dit Paul, que j'ai été institué prédicateur et apôtre. Je le dis, Timothée, je dis la vérité, je ne mens pas, pour enseigner aux non-juifs en ce qui concerne la foi et la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans un relativisme ambiant. Tout est devenu relatif. Il n'y a plus ni bien ni mal, ni de vérité absolue, ni objective. C'est comme si la vérité ne comptait plus. C'est comme si on voulait faire disparaître la vérité avec un grand V. Je m'adresse aux parents. Parents marqués une forte désapprobation quand votre enfant vous ment. Marquez vraiment une forte désapprobation. Ne soyez pas des parents cool avec le mensonge. Ne tolérez pas le mensonge, ni dans votre vie, ni dans ceux de vos enfants. J'ai vu des enfants mentir jeunes, devenir ados, mentir ados, devenir des jeunes adultes, continuer à mentir. Ah, c'est un enracinement terrible. Encouragez votre enfant dès son plus jeune âge à vous dire la vérité. Oh, il pleurera ou elle pleurera, certainement. Mais plus tard, ils deviendront des personnes fiables. Ils ne seront pas entraînés à tout va de doctrine, selon la mode du moment. Je sais qu'il y a une lutte éducative. Et franchement, je vois des parents de plus en plus occupés. Et quand on rentre à la maison, c'est pas toujours facile de revenir, de retrouver des forces et de l'énergie supplémentaire pour reprendre, hein, mais résister à la tentation de laisser courir un mensonge. C.S. Lewis, pour le paraphraser, a dit ceci, « Si vous cherchez ce qui est juste, vous finirez peut-être par trouver la tranquillité. Mais si vous recherchez la tranquillité, vous n'obtiendrez ni le confort, ni ce qui est juste. » C'est pourquoi nous avons besoin de prier pour les parents. Au temps des juges, Israël avait ce leitmotiv. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. À chacun sa vérité, peu importe ce que Dieu demande. Et cette philosophie, eh bien, s'est développée. Kierkegaard a dit, Søren Kierkegaard, « Le tout est de trouver une vérité qui soit vraie pour moi, même si elle n'est pas vraie pour l'autre. » Et ces philosophies ont largement été diffusées par le biais des médias, assimilées par nos esprits. On n'est plus sous l'angle de « est-ce que c'est vrai, conforme ou pas ?» mais sous l'angle de « c'est mon choix, et qui es-tu toi pour me juger ?» George Orwell, qui a écrit un livre en 1949 qui s'intitule « 1984 », décrit un monde qui ressemble à ce que nous vivons. Il dit ceci, plus une société s'éloigne de la vérité, et plus elle hait ceux qui disent ce qu'ils la disent. En réalité, nous ne pouvons pas créer notre propre réalité. Nous ne vivons pas dans un jeu vidéo. Nous ne sommes pas dans un monde virtuel. Jésus a dit, ta parole est la vérité. Et il dira aussi, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Alors il m'est arrivé parfois de discuter avec des gens qui disaient qu'il n'y avait pas de vérité absolue. Et l'argument que j'entendais était celui-là. Qui te dit que nous ne sommes pas en train de rêver, toi et moi? Et là, je leur ai dit, donne-moi 500 euros et tu sauras si tu es en train de rêver ou pas. Eh oui, tout n'est pas virtuel, n'est-ce pas? On ne peut pas tout relativiser, le bien et le mal. Nicky Pollard, qui est un évangéliste anglais, a dit ceci concernant les relativistes. Qu'est-ce qu'un relativiste aurait pu dire à Hitler? Il ne pouvait pas lui dire qu'il était mal de tuer 6 millions de juifs, mais seulement que c'était mal pour lui. Hitler aurait pu alors déclarer, mais pour moi et le peuple allemand, c'était pas mauvais en soi. Terrible, non? On ne peut pas relativiser le bien et le mal. Au nom de la vérité, nous ne pouvons pas dire amen à tout. Alors, pour en revenir au Notre Père, comment bien comprendre ce amen qui clôt cette prière? Eh bien, ce sont des paroles de vérité que Jésus dit. C'est cela notre assurance. C'est parce qu'elles viennent de lui qu'elles font autorité. Il est être la vérité. Ainsi, nous exprimons à la suite de ce que Jésus nous enseigne que nous sommes en plein accord du plus profond de notre être et que nous approuvons toutes ces paroles de vérité. Ainsi, je ne peux pas dire amen à notre si je pense que Dieu se limite juste à notre dénomination. C'est mon Dieu, il est notre. Je ne peux pas dire Père si j'oublie que chacun d'entre nous sur cette terre a droit à son amour et qu'il a des enfants de par le monde. Je ne peux pas dire amen à qui est aux cieux si je doute de la souveraineté de Dieu dans ce monde. Je ne peux pas dire amen à que ton règne vienne si je n'ai pas la certitude de son règne éternel. Je ne peux pas dire amen à que ta volonté soit faite sans avoir l'assurance que sa volonté est sainte, juste et bonne. Je ne peux pas dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » sans considérer sa providence suffisante. Je ne peux pas dire « Amen, pardonne-nous nos offenses » si je ne dépends pas de lui pour effacer mes péchés par le don de la croix. Je ne peux pas dire « Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés » si je garde un coin de rancune envers qui que ce soit dans mon cœur. Je ne peux pas dire « Amen, ne nous laisse pas entrer en tentation » si je ne dépends pas de lui de chaque instant, à chaque jour. Amen, mais délivre-nous du mal si je ne suis pas convaincu de sa protection divine. Je ne peux pas dire amen, car c'est à toi qu'appartiennent le siècle, la gloire et la puissance. Si je me limite à ce que je vois, ou à ce que j'entends, ou à ce que je vis, oubliant et doutant de celui qui est plus grand, et bien plus grand, et bien plus sage que nous. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Est-ce que c'est vraiment ce que tu crois au plus profond de ton cœur? Approuves-tu chacune de ces paroles du Notre Père que Jésus nous a laissées? Paroles de vérité. Adhères-tu entièrement à tout ce que Jésus a dit? Tu le peux. Ouais, tu le peux. Vas-y, fais confiance. Car il est le Amen, le témoin fidèle et véritable qui est à l'origine de tout ce que Dieu a créé. il est digne de confiance. Ce rocher qui ne bouge pas, il est solide et il tient bon malgré les tempêtes. Voilà un petit mot de la fin, le Amen. Jérôme, qui était père de l'Église au IVe siècle, disait que les Amen de l'assemblée, des assemblées chrétiennes primitives de Rome s'entendaient comme un bruit de tonnerre. Ne faisons jamais taire nos Amen parce qu'ils pourraient être excentriques. Ne craignons pas de les exprimer. Parents, exercez aussi vos enfants à dire Amen. Grands-parents, faites de même vis-à-vis de vos petits-enfants. Oh, même sans être parents ou grands-parents, nous pouvons encourager un visiteur à l'église, tout en étant assis lors d'une prière communautaire, à dire Amen à une parole que nous avons entendue, avec laquelle nous sommes en plein accord. Le pasteur Hunziker disait, c'est là une obéissance que nous devons surtout à l'esprit de la parole de Dieu et à la vie. Et je finirai avec cette citation de Frédéric Baudin qui dit « Nous pouvons remercier ce Dieu fidèle, véritable, digne de confiance, un Dieu que l'on peut croire sur parole. Nous pouvons lui adresser notre prière, mais aussi notre louange, lui exprimer notre adoration, lui rendre gloire. Et chacun peut associer à cette prière, à cette louange, simplement en ajoutant son Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et qu'il nous fasse grandir en lui, lui qui nous aime. Amen.